J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une immense comédienne capable de passer en un quart de seconde de la candeur d'une jeune paysanne de 11 ans à l'autorité glaçante d'une matriarche lettrée. De la comédie française à une série télévisée aussi populaire qu'une famille formidable sur TF1, ce deuxième prix du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique a montré qu'elle savait tout jouer jusqu'à obtenir cette année le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Béatrice Agenin est donc avec nous. Le spectacle en question, qui a aussi obtenu d'ailleurs le Molière du meilleur spectacle, c'est Marie des Poules, gouvernante chez Georges Sand, une pièce de Gérard Savoisien, mise en scène d'Arnaud Denis. Elle est toujours à l'affiche à Paris, au théâtre Montparnasse, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Béatrice Agenin.
Bonjour.
Cette pièce, Gérard Savoisien l'a écrite pour vous. C'est vous qui l'avez contacté, hein, pour qu'il explore à nouveau le personnage de Georges Sand, ce qu'il avait déjà fait une fois. Quelle était votre idée à vous, à la base ?
Oh, moi, je pensais qu'il allait écrire un monologue parce que depuis toujours, j'ai souhaité dire du Georges Sand. Donc, je suis originaire du Berry et j'ai été bercée, évidemment, avec ce grand personnage dont on me parlait. Et j'ai toujours un peu lu du Georges Sand et particulièrement Histoire de ma vie, parce que c'est un tel destin, c'est une telle histoire fascinante, extraordinaire, que je notais des phrases et puis j'en avais beaucoup et au fur et à mesure je me disais il faut absolument que je fasse un spectacle sur Georges Sand, mais je ne sais pas écrire et j'avais tellement de documents que je ne pouvais pas trier.
Et donc vous lui avez passé la balle?
Oui,
si parce j'ose dire.
Que c'est
et,
ça.
Et elle vous est revenue avec, j'imagine, un petit peu de surprise quand même, parce qu'il n'y a pas que Georges Sand dans le spectacle.
Non, c'est-à-dire que j'avais vu son très 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 beau Mademoiselle Molière, j'avais été très bouleversée, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu m'écrives quelque chose sur Georges Sand, avec un peu de patois. Parce que dans les textes de Georges Sand, elle décrit les paysans qui sont autour d'elle et quelquefois elle les fait parler en patois. Et comme évidemment je suis de là-bas, je me suis dit ça sera drôle, je ferai un petit mélange de français et de patois. Et en réalité, il a sorti de Wikipédia ce personnage qui a existé, qui s'appelle Marie Caillot et qui était domestique chez Georges Sand à partir de 11 ans.
J'ai 11 ans.
Quel âge as-tu ?
11 ans, madame Sand, j'allons sur 12.
Comment t'appelles-tu ?
Marie Caillot, madame Sand.
Tes parents ?
Mon père, c'est le tisserand Pierre Caillot, que sa première femme est née au paradis.
Ma mère ?
C'est la seconde femme du père, la Jeanne de la femme de Saint-Chartier, qui est blonde, douce, mais qui n'arrive pas de tazonner.
Et toi, tu tazonnes ?
Jamais, madame Sand, moi je suis travailleuse et pas tous les temps, je m'en vais tailler la bouchure, même quand ça caille pas chaud.
As-tu des frères et des sœurs ?
Et la Nanette, ma grande sœur, qui n'arrête pas de me tirer les nattes.
Et ça te met en colère ?
Madame ?
Mais tu l'aimes bien quand même.
Ma foi. J'avais aussi des demi-frères et puis des demi-sœurs. En veux-tu, en voilà, tous plus grands que moi. Il m'a escicoté en poil trop.
Bon, vous avez dû vous régaler, alors, Béatrice Agenin, avec ce patois berrichon, cet accent berrichon. C'est une seconde nature chez vous ? Vous avez dû quand même retravailler ça ?
Oh, c'est toujours resté un peu là, quoi. Quand j'allais dans le Berry, j'y suis retournée par plaisir pour voir une dame que j'aimais beaucoup. Et c'était très agréable de l'entendre parler. Et ce que j'ai essayé de prendre, c'est l'idée, parce que selon les régions du Berry, on roule ou on ne roule pas les airs.
Oui.
Et cette femme, justement, elle se débrouille pour ne pas les rouler. Il y a une élégance de la part de certaines personnes, et particulièrement dans ma famille et autour de chez moi, où il était de bon ton de ne pas rouler les airs.
Alors, et donc là, il a fallu changer.
Je les roule un peu, mais j'essaye de les éviter quand même, quoi.
Alors, la cuisinière du domaine de Nohant s'appelle aussi Marie, et donc Marie Caillot sera surnommée Marie des Poules, puis pour la différencier de l'autre Marie, hein, puisque c'est elle qui est chargée de récupérer les œufs dans le poulailler. Et petit à petit, Marie va perdre un peu son accent, elle va parler le français de mieux en mieux, car sa maîtresse va faire son éducation, son instruction. Donc au départ, c'est quelqu'un qui n'a pas de bagage, hein, mais qui a quand même de sacrées bonnes dispositions.
Elle est très douée, c'est ce qu'a remarqué Georges Sand, et elle est touchée, Georges Sand, par la vive intelligence qu'a cette petite, et elle lui propose d'abord de jouer dans les pièces qu'elle monte à Nohant, un petit peu en préparation de ce qu'elle va faire à Paris, parce qu'elle a quand même fait jouer ses pièces à la Comédie-Française, et elle les teste avec les gens de Nohant, les paysans, les gens de sa domesticité, et puis elle fait donc travailler cette petite, elle lui apprend les textes au mot à mot, et puis elle réagit si bien que finalement elle décide de lui apprendre à lire et à écrire.
Et donc elle va effectivement faire son apprentissage, parce que c'est vraiment un récit initiatique hein, aussi, Béatrice Agenin, que cette pièce. Donc une fille qui va apprendre à découvrir les lettres, à découvrir le monde, qui va se cultiver, qui va grandir hein, dans tous les sens du terme, à la fois physiquement et intellectuellement, et jusqu'à effectivement se produire sur la scène de ce petit théâtre de Nohant. Elle va interpréter pas moins de 35 pièces.
Exactement. Et George Sand parle d'elle dans ses lettres et dit qu'elle est extraordinaire, qu'elle est magnifique, qu'elle est belle et qu'elle est très douée. Elle est capable d'apprendre un texte en une après-midi et aussi des rôles d'hommes. Elle est assez exaltante pour George Sand.
Madame Sand m'explique, c'est très simple. Il y a la scène avec le côté jardin et le côté cour et il y a la salle, les acteurs et les spectateurs. Les acteurs font semblant de vivre des sentiments et les spectateurs font semblant d'y croire. Et voyez le prodige. Tous ces mensonges forment une vérité encore plus belle que la réalité. J'ouvre de grands yeux. Tout un univers que j'ignore arrive sur moi comme une pluie bienfaisante après la sécheresse. Il y a donc des gens qui s'instruisent tout en s'amusant.
C'est une bonne définition du théâtre, ça, Béatrice Agenin.
Ah oui, s'instruire en s'amusant, c'est vraiment, c'est ça, oui. Moi, je peux dire que le théâtre m'a révélé énormément de choses, m'a appris énormément de choses. Je crois que j'ai commencé à comprendre certaines, même la relation politique des êtres à partir du jeu de l'amour et du hasard qu'avait monté Roussillon à la Comédie-Française. Et j'ai compris là qu'est-ce que c'était que l'aristocratie à travers Marivaux, quoi.
Donc il ne s'agit pas seulement de voir sa culture progresser, il ne s'agit pas de mieux apprendre, mais il s'agit aussi de mieux comprendre le monde à travers le théâtre.
Oui, ça aide beaucoup. Et en plus, les auteurs de théâtre sont d'une certaine façon des gens qui bousculent les pensées communes. Molière bouscule, Marivaux bouscule. Et c'est vraiment là que j'ai le plus appris.
Et sur la scène du théâtre Montparnasse, la magie du théâtre, hein, elle passe aussi par toute une série de procédés choisis par Arnaud Denis, hein, qui met en scène. Il y a la reproduction du manoir de Nohant qu'on utilise un peu comme une maison de poupée, hein, avec des figurines qui représentent les personnages. Il y a des marionnettes, il y a toute une série d'accessoires, il y a tout un jeu de lumière absolument magnifique signé Laurent Béal, et donc évidemment un jeu sur les ombres. C'est à la fois très sobre et très beau, il y a une jolie toile champêtre en fond de scène aussi. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire l'atmosphère qui s'installe sur scène?
Eh bien, c'est une évocation. Cette petite jeune fille est à une petite terrasse de café et elle se rappelle son Berry natal parce qu'en fait, elle a été envoyée à Paris comme gouvernante et ça, on le comprend à la fin de la pièce. Et au fond, elle sombre dans la réalité, dans la boisson, parce que sa vie, qui a été extraordinaire et lumineuse grâce à George Sand, est devenue tragique à cause de la situation des femmes à cette époque-là. Et donc, en se remémorant cette histoire qu'elle a vécue, parce qu'elle s'y accroche, parce que c'est au fond sa seule raison de vivre et ce qui a été le plus beau dans sa vie, par les lumières et le très beau décor de Catherine Bluval, on revient dans son passé. Cette évocation permet donc de passer à tous les âges et à toutes les situations dont elle veut se rappeler.
Et c'est donc dans cette atmosphère, hein, tout en nuances, hein, un peu en clair-obscur, un peu entre chien et loup, que le spectateur va découvrir la relation entre Marie Despoules et Maurice. Maurice, c'est le fils de George Sand. Alors au début, ça commence comme un troussage de domestiques, hein, très courant évidemment dans ce milieu à l'époque.
Ah, cette petite Marie est bien agréable. C'est bon de lui apprendre les choses de l'amour. Je suis son maître, davantage qu'elle n'est ma maîtresse. Elle me suit. Après des débuts de petit animal effarouché, elle se laisse emporter par mon désir et je vois bien que je lui procure le sien.
Alors c'est François Nambeau et Arnaud Denis qui interprètent en alternance le personnage de Maurice. Quel regard est-ce que Marie Despoules porte sur Maurice, Béatrice Agenin, au départ, au début de leur relation?
Au départ, je pense qu'elle est très déçue, mais ça, j'imagine qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes avaient cette impression-là. On ne savait rien de la sexualité, on ne savait rien de la relation tendre, caressante qu'il pouvait y avoir entre un homme et une femme. Et elle s'attache au rêve qu'elle a, de pas forcément de l'homme bourgeois qu'est Maurice et du fils de George Sand, mais de cet homme qui sait, qui a une éducation. Ça, pour elle, c'est extraordinaire. Je pense que l'amour est lié à tout ce qu'elle apprend en même temps. C'est pas forcément Maurice dont elle est amoureuse, mais c'est de toute cette connaissance qui arrive avec lui.
Oui, parce que Maurice, il est quand même macho, il est quand même souvent odieux, et il ment comme il respire. Il y a parfois du mépris qui ressort de façon presque naturelle.
Oui, et il est très certainement comme beaucoup d'hommes de cette époque. Et en plus, il est le fils de George Sand. Et ça, c'est pas facile à porter.
Oui, c'est pas évident, effectivement. Alors lui aussi, il va évoluer au cours de la pièce, le personnage de Maurice. Et le regard de Marie, donc votre personnage, Béatrice Agenin, lui aussi évolue, car elle grandit. Elle fait l'apprentissage non seulement de l'amour, mais aussi de la nature humaine.
Parfois, je me demande ce que je vous trouve. Je ferais mieux de débarrasser.
Reste encore un peu.
Je ne parlais pas de la table. Débarrasser mon cœur de ce sentiment qui me porte vers vous avec tant de faiblesse.
Tu me pardonnes?
Oui, je vous pardonne. Ma miséricorde est infinie puisque je vous aime d'un amour infini. Vous voilà rassurée?
Un peu.
Eh bien, vous avez tort. Parce que cette extrême mansuétude n'est pas dénuée d'une certaine forme de mépris.
Tu t'exprimes bien.
Le dégoût est facile à exprimer. Il se vomit.
Marie, j'ai toujours autant d'affection pour toi.
Non, du désir sans doute, pas plus. L'affection lui est supérieure. Et vous n'êtes pas un homme supérieur, pardon de vous le dire.
Toi, tu n'es qu'une petite servante qui sait lire et écrire.
Ouais, elle le gifle. Hein. Ça se voit pas à la radio. Est-ce que vous diriez, Béatrice Agenin, que Maurice est un homme médiocre?
Oui, mais il l'est comme malheureusement beaucoup d'hommes l'étaient à cette époque. Et ce que dit cette petite, je pense que ça fait écho malheureusement encore à beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est très compliqué, on peut avoir une certaine parité parce qu'il le faut, parce que nous allons vers ça. Mais c'est pas une raison non plus pour que tout ce qui se passe d'intime, de secret, de mystérieux entre l'homme et la femme soit résolu. C'est beaucoup plus complexe que ça. On peut réfléchir à l'évolution de la femme. Et au XIXe siècle, il ne faut pas oublier que seuls les intellectuels, les riches, les bourgeois avaient une éducation, pas les femmes. On a acquis des droits au début du XXe siècle, je parle des femmes, mais pour autant, psychiquement, ça n'a pas suivi. Ça doit être très compliqué aujourd'hui d'être un homme. Et d'avoir des femmes qui revendiquent des droits, alors que l'évolution n'a pas eu le temps de se faire à l'intérieur. Moi, je pense que, bien évidemment, elle n'a jamais pu dire ça, cette petite jeune fille, à Maurice Sand. Est-ce qu'une femme dissimulée a droit à la parole? Mais je crois que beaucoup de femmes dans la salle
se reconnaissent
oui,
dans ce personnage.
Oui. Peuvent le penser, en tout cas.
Et des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Béatrice Agenin qui joue Marie Despoules actuellement au théâtre Montparnasse à Paris. Alors on parlait tout à l'heure, Béatrice Agenin, de la magie du théâtre et elle s'exerce à plein parce que vous incarnez à la fois Marie Despoules et Georges Sand. Vous passez d'un rôle à l'autre alternativement. Ce qui est frappant, c'est que vous pouvez vraiment en un quart de seconde devenir alternativement une femme mûre et une jeune ingénue et avoir la même crédibilité. C'est quoi la recette ?
C'est-à-dire qu'on est parti avec Arnaud Denis d'un travail, comment dire, par petites touches. Plus ça allait, plus Arnaud me disait que Georges Sand était masculine, qu'elle avait une autorité, qu'elle était sans faille, qu'elle était droite. Et au fur et à mesure, j'ai pris une voix plus grave. Et par conséquent, pour la jeune fille, j'ai pris une voix plus légère. Et au bout du compte, c'est comme une partition. On passe d'une voix légère, comme si c'était un opéra, à une voix grave. C'était presque un jeu, puis c'est devenu la réalité dans la pièce.
Mais vous parlez effectivement d'une partition, et c'est vrai que non seulement il y a la voix, il y a le timbre, mais même la musicalité de la langue n'est pas du tout la même.
Oui, ça c'est l'écriture. Parce que cette petite jeune fille, c'est curieux, j'ai joué autrefois On ne badine pas avec l'amour, et on a presque l'impression que c'est Camille, avec toutes ces questions sur l'amour, est-ce que vous allez aimer longtemps, est-ce que ça existe, est-ce que... voilà. Et ça, c'est vraiment attachant parce que Georges Sand a vécu une telle belle, grande histoire avec Musset. On a l'impression qu'il y a une partie dans le texte de Gérard Savoisien qui appartient à Musset.
Mais est-ce que, pour vous, Marie Despoules et Georges Sand sont des personnages qui se ressemblent ?
Au fond, c'est la société qui les différencie, mais ce sont mêmes.
C'est une différence de classe sociale?
Oui, absolument.
Et pas une différence de caractère, de personnalité?
Non, je ne crois pas. Le caractère a été acquis dans la destinée extraordinaire de Georges Sand par tout ce qui lui est arrivé, par comment elle est arrivée à Nohant, élevée par une grand-mère aristocratique, la bataille qu'elle a dû mener pour récupérer Nohant alors que Nohant était perdu dans son mariage. Toutes ces choses l'ont rendue forte, l'ont rendue consciente des droits qu'elle avait. Et la petite, c'est l'innocence qui la rend comme ça, très fragile et très pure.
Mais on se rend compte, Béatrice Agenin, que Georges Sand, la scandaleuse, n'est au fond pas si féministe que ça, qu'elle se soucie quand même beaucoup du quand dira-t-on, des usages, du regard de l'autre.
Le mot est apparu dans ses textes, mais clairement, elle ne pouvait pas l'être. Elle n'aurait plus aucune crédibilité dans sa domesticité si elle avait laissé faire un mariage entre son fils et une domestique paysanne.
Donc ça veut dire que Georges Sand, la scandaleuse, qui s'habillait en homme, qui savait provoquer, qui savait bousculer un peu la société, trouvait dans l'intimité de sa vie privée des limites.
Bien sûr, évidemment. Le féminisme, c'est un militantisme. Et je pense qu'on a encore du travail là-dessus.
Oui, c'est clair, effectivement, que la pièce résonne aussi avec l'actualité et avec l'époque contemporaine. Je vous avais parlé tout à l'heure de recettes, Béatrice Agenin, justement, pour pouvoir incarner ces deux personnages alternativement sur scène. Vous m'avez en partie répondu, mais pas complètement, parce que vous n'avez pas répondu sur une question majeure. C'est la question de la présence. La présence de Georges Sand et la présence de cette Marie Despoules, pas du tout de même extraction, et pourtant les deux personnages rayonnent sur la scène du théâtre Montparnasse. Comment ça se travaille, cette présence? C'est inné ou ça se travaille?
Ça se travaille. Je crois pas du tout que ce soit inné. Tout se travaille. Alors, il y a l'imaginaire, bien sûr. La petite jeune fille, moi j'ai été comme ça, donc je me replonge dans mon passé. J'étais très naïve. Elle dit qu'elle est très naïve, elle est très pure, très innocente. Je crois qu'on a toutes été comme ça, les jeunes filles. Maintenant c'est un peu plus tôt, où l'adolescence est bousculée par les réseaux sociaux, par la technologie. On a très vite accès à des images pornographiques que nous, jeunes, nous n'avions pas. Je suis née en 50. On n'avait même pas notion que ça existait. Il a fallu 68 pour commencer à se dire que, voilà, ça s'apprenait, qu'il n'y avait pas de honte Mais je n'en étais pas très loin de cette jeune fille-là. Donc il y a quelque chose qui est resté. C'est l'imaginaire qui fait travailler. Quant à George Sand, eh bien voilà, moi j'ai 70 ans, donc je suis une femme qui a un certain vécu. J'ai pas beaucoup d'efforts pour faire George Sand, quoi.
Merci beaucoup, Béatrice Avenin, d'être venue nous voir. Marie Despoules, gouvernante chez Georges Sand, une pièce de Gérard Savoisien, mise en scène. Arnaud Denis, toujours à l'affiche du Théâtre Montparnasse.
Merci beaucoup. À vous.
Une vie est passée dans la propriété, une enfance sans mère et des noces amères. Dans Nohant qui demeure et qui devient plus grand, qui occupe l'espace et qui régit le temps. Les murs ont résonné de musique enflammée, de baisers envolés, de fièvre ravalée. Dans ma maison, dans mon Nohant, j'eus des amants. C'était l'instant. Mais bientôt tout s'éclaire, tout s'apaise, tout se tait, et devenir grand-mère libère du passé. Cette petite fille-là que l'on cherche à aimer, mais qui ne survit pas, qu'on n'oubliera jamais. D'autres enfants encore, Gabriel et Aurore, qui remplissent les lieux de leur voix, de leur jeu. Dans ma maison, dans mon Nohant, j'étais enfant, c'était avant. Enfants de ces enfants, tous enfants de Nohant, c'est la terre, c'est le temps, l'hiver mieux qu'un printemps. Écrire, écrire sans fin, comme seule preuve d'amour, pour leur nuit, pour leur jour, pour leur tenir la main. Les contes pour enfants, les histoires de Nohant, le chien, le feu sacré et le chêne parlant. Dans ma maison, dans mon Nohant, mes petits enfants. Et maintenant, j'aime savoir que Nohant me survivra pourtant, que les fantômes d'antan y flotteront un temps. Avant que tout s'efface, les amours, les amants, et que la vie ne passe de Nohant au néant. Avant que tout s'efface, les amours, les amants, et que la vie ne passe de Nohant au néant.
Nohant, Caroline Loeb dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Elisabeth Le Quéré, Amélie Beaucourt et Alain Pilot. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et après un petit tour dans le 19e siècle avec Béatrice Agenin, eh bien on va se retrouver au début du 20e, en 1910 plus précisément. Avec vous, Amélie, dans un instant, on va partir à la rencontre de la plus grande créatrice de mode que le monde ait connue, Gabrielle Chanel.
Oui, le Palais Galliera à Paris lui consacre une rétrospective d'envergure pour sa réouverture. L'occasion de revenir sur le style qu'elle a su imposer et qui est toujours, on le verra, présent aujourd'hui.
Avec vous, Alain, This is Shit, une formation dont on découvrira dans un instant si son nom résulte d'un accès de modestie, d'un excès de substances prohibées ou d'une lucidité coupable. Un trio français, en tout cas, qui publie son premier album.
Oui, Jean-François, avec une particularité de proposer un disque en une seule piste, comme au bon vieux temps des groupes psychédéliques ou de rock symphonique, à l'instar de Genesis.
Au menu également de la photo avec vous, Elisabeth.
Voilà, avec Cindy Sherman, un artiste culte et transformiste exposé en ce moment même à la Fondation Louis Vuitton.
Mais pour commencer, Marjorie, on part au cinéma. Car cette semaine, vous avez envie, Marjorie, de nous parler d'histoire à travers un dessin animé, un film d'animation, comme on dit. Un film qui s'appelle, alors faut prononcer comment, Joseph ou Rosette?
Eh bien, ça dépend si on se trouve en France ou en Espagne, justement, car c'est une histoire qui concerne ces deux pays. Le sujet du film, c'est la retirada, ce qui veut dire la retraite des troupes en catalan. Février 1939, le général Franco s'empare de Barcelone. 500 000 Espagnols fuient la dictature pour la France, en passant par la Méditerranée ou les montagnes des Pyrénées. Et là, le gouvernement français, qui a peur de la menace rouge, comme on appelle le communisme à l'époque, les parque à Saint-Cyprien, Rivesaltes, des petites villes du sud de la France, dans des camps de concentration. Parmi ces exilés, le dessinateur et caricaturiste Josep Bartoli, qui est le héros de ce dessin animé autobiographique. Le dessinateur Aurel a imaginé 60 ans après son enfermement qu'un ancien gendarme qui gardait ses camps raconte à son petit-fils son amitié avec le dessinateur et la vie des prisonniers dans les camps.
Pas de docteur, pas d'eau potable. La gale, le scorbut, le typhus. Et la famine. C'est terrible d'avoir faim. Pour vous. Vite, prenez, s'il vous plaît.
Alors la voix qu'on vient d'entendre dans cet extrait est celle du gendarme jeune qui, révolté par l'injustice, offre en cachette à Josep du papier et des crayons pour continuer de dessiner malgré ses conditions de vie. Et Josep va dessiner partout, y compris sur les murs des baraquements.
Est-ce que ça l'a aidé à survivre, Josep Bartoli, de pouvoir ainsi dessiner pendant sa détention?
J'ai justement posé la question à Aurel qui était en promotion à Paris il y a quelques jours.
Je ne sais pas s'il peut sauver la vie à tous les coups, mais je pense que c'est évident que pour un dessinateur, qui, comme Josep l'a vraisemblablement été, ou comme je le suis moi, sans ça, on tiendra beaucoup moins longtemps. Ça ne sera pas une condition suffisante pour survivre, mais c'est primordial. Luz le raconte très très bien dans les livres qu'il a fait suite aux attentats de Charlie Hebdo.
Aurel évoquait Luz, un de ses confrères, puisqu'il est lui-même, comme Josep, également dessinateur de presse, et il s'est beaucoup documenté pour être fidèle à l'histoire. Aurel s'est aussi rendu plusieurs fois dans le sud de la France pour s'imprégner de ces camps de concentration, une ambiance qui est très bien restituée dans le film.
Et ils existent toujours, ces camps?
Alors, celui de Rivesaltes, près de Perpignan, n'a pas été détruit et dispose d'un mémorial. Et heureusement, car aujourd'hui encore, la retirada n'est pas étudiée à l'école en France, alors que les enfants de la retirada constituent un tiers de la population des Pyrénées-Orientales. Donc le film d'Aurel est aussi un support historique. Et artistiquement, ce qui m'a surtout frappé, c'est l'apparente simplicité des dessins du film. Dans toute la première partie de Josep, on multiplie les fondus enchaînés, il n'y a pas tellement de recours aux effets spéciaux. Et le style fait un peu penser à celui de Tardi, autre dessinateur au service de la mémoire historique. On voit les coups de crayon d'Aurel, nerveux, sans ébauche de couleurs, comme des croquis, parfois même sur du papier à ligne, comme si finalement Aurel avait lui aussi eu des moyens limités.
Et ça s'est fait exprès?
Bien sûr, écoutons ce qu'en dit Aurel.
La période la plus importante, la plus marquante en termes de, peut-être graphiquement, c'est la période des camps. J'ai dessiné avec du matériel très très simple, de qualité médiocre, pour me rapprocher au maximum de que tout se voit, que toutes les matières se voient, et pour rester dans un esprit de modestie des outils que pouvait avoir Josep au moment où il a travaillé, et surtout que tout repose sur le trait et non pas sur la brillance des outils ou des matières utilisées.
Alors le dessin et la peinture sont au cœur du dessin animé, notamment à travers une contemporaine et proche de Josep, la peintre mexicaine Frida Kahlo. Le grand-père, qui est très vieux, raconte qu'une nuit, alors qu'il fumait une cigarette face à la mer, Frida Kahlo avait justement surgi de l'eau, comme par magie.
Attends. Pourquoi elle a de la peinture sur les doigts?
Ah, eh bien, c'est Frida Kahlo.
Voilà, Josep.
Voilà, Frida.
Et en quoi elle va être déterminante pour Josep, Frida Kahlo?
Bah déjà, ils vont être amants. Et puis, dans ce passage, elle est vêtue de couleurs vives comme ses peintures. Et c'est pas par hasard dans la carrière de Josep. C'est elle qui va le pousser à passer à la couleur. Et donc, à sortir du noir et blanc et à dépasser sa peur. Car c'est aussi un film sur la résistance, Josep, bien sûr. Hein. Josep est prêt à mourir pour ne pas trahir ses idéaux. Il dit qu'il ne reviendra pas en Espagne. Sauf si c'est pour cracher sur la tombe de Franco, ce qu'il fera. Et ça montre aussi la puissance de l'amitié. On peut sauver rassurer quelqu'un en l'aidant à s'évader concrètement ou avec des crayons comme le fait le gendarme, mais aussi en lui ouvrant les yeux sur le monde. Rosep fait aussi l'éducation politique de son ami de son côté et ça passe aussi par l'effort de parler sa langue. Écoutez.
Si l'âme, elle existe, c'est comme une belle idée. Ces idées qui ont porté lui, moi, tous, le communisme, l'anarchisme, la république, ces belles idées, si elle ne rencontre pas une belle personne, ça devient la mort.
Ça devient la mort.
Alors, dans ce souvenir, Rosep et son ami sont encore dans le camp de concentration du sud de la France. Mais ce portrait, vraiment plein de surprises et de poésie, se passe également au Mexique et à New York.
Rosep, le premier long métrage d'Aurel en salle actuellement dans toute la France, un film qui fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier ?
Ah, permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être. Selon la robe dans laquelle on les a fourrés, c'est très difficile. Mais ça, comme on dit, je crois que c'est le don que je possède. Enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai.
Elle a révolutionné la mode de son époque, ses monochromes, ses tailleurs stricts, ses silhouettes épurées, et plus tard bien sûr ses bijoux et ses parfums. Gabrielle Chanel a travaillé jusqu'au dernier jour au service des femmes et de leur émancipation, et c'est à cette grande dame de la haute couture que le palais Galliera, dans le très chic 16e arrondissement de Paris, consacre sa toute première exposition depuis ses travaux d'agrandissement. Amélie, vous êtes donc retournée en 1910, au moment où la tempête Chanel commençait à déferler sur la mode.
Mais une tempête qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, hein. Vous ne vous en souvenez sûrement pas, Jean-François, mais
non, certes non.
Les femmes portaient des robes lourdes et encombrantes, drapées, décorées de plumes, de froufrous, de fleurs dans tous les sens, dessinées par des hommes qui ne devaient pas tellement avoir fait l'expérience du corset qui vous empêche de manger plus qu'un bout de salade au déjeuner. La jeune Gabrielle Chanel débarque et remet en cause ce style qu'elle trouve absurde. Véronique Belloir, co-commissaire de l'exposition.
C'est une femme créatrice, elle ressent et est la première à porter ses propres créations. Et elle a une vision différente de l'élégance féminine qui est portée par des notions telles que le confort, le naturel, la liberté de mouvement. Et ça, c'est vraiment différent.
Vous êtes très jolie sans votre chapeau.
Merci.
Oh, c'est drôle, je me sens toute nue.
Vous avez un front, un nez, une bouche, non ?
Ah oui, mais on va penser que je n'ai pas de quoi me payer des plumes.
Mais pas du tout. Avec ce truc-là sur la tête, on se demande comment vous faites pour réfléchir.
Réfléchir.
Vous faites bien semblant que ça vous arrive, non ?
Est-ce qu'il y a autre chose qui m'empêche de réfléchir ? Allez-y, dites-moi. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger.
Vous devriez enlever tout ça. Ça fait un peu carnaval.
Oh bah non, laissez-moi quand même des trucs qui décorent, sinon je vais vraiment me sentir pauvre.
Alors ça, c'était un extrait du film Coco avant Chanel, un film avec Audrey Tautou et Emmanuel Devos, un film signé Anne Fontaine, sorti en 2009, film dans lequel on voit effectivement une Gabrielle très critique du style vestimentaire de ses contemporaines, Amélie.
Oui, elle veut des vêtements confortables qui permettent de bouger sans être coincé, des vêtements agréables avec des matières douces, élastiques, qu'on retrouve à cette époque dans le vestiaire masculin, comme le jersey qui servait à confectionner des vêtements de sport. Et puis elle veut des vêtements pratiques, fonctionnels, et ça se voit à un détail dans l'exposition. Pour la première fois, les vestes de femmes portent des poches.
Ah ça, la poche pour Gabrielle Chanel, c'est très important. Et vous avez dû voir, dès les premiers vêtements, on voit ces poches et des poches apparentes. D'abord, ça lui permet de mettre des choses dedans, c'est des poches utiles. Hein. Et puis, d'avoir cette posture, on voit souvent les photos de Gabrielle Chanel dès le début, on la voit avec les mains dans les poches, et ça, c'est une posture. Mais il y a aussi une notion qui est la désinvolture. Ça, c'est quelque chose aussi d'important et qui dit beaucoup de sa mode.
Et il y a autre chose qui frappe en entrant dans l'exposition, c'est l'atmosphère très feutrée dans laquelle sont présentées les créations de Mademoiselle Chanel.
Tout à fait, il fait très sombre dans les salles de l'exposition. Les seuls spots de lumière viennent éclairer directement les modèles. C'est très sobre, presque austère, alors que le luxe est partout. La scénographie est finalement très représentative du style de Chanel, minimaliste, pur,
Monochromatique et vaste, le Palais Galliera a réaménagé ses caves pour en faire une galerie supplémentaire et ainsi doubler son espace d'exposition. Le rez-de-chaussée est consacré à la première partie de son œuvre, avant qu'elle ferme boutique à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et le rez-de-jardin, lui, signe son grand retour à partir de 1954, avec ses tailleurs iconiques et ses bijoux fantaisie très exubérants qui cassent un peu la sobriété de son style.
Alors ce style Chanel, justement, Amélie, on dit qu'il a durablement influencé la mode. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Alors oui, selon Véronique Belloir, outre les femmes évidemment qui peuvent se permettre de porter effectivement ces créations intemporelles, c'est plutôt une façon de s'habiller, un style que nous avons toutes et tous hérité de Gabrielle Chanel.
Je disais que cet été, par exemple, j'ai vu plein de jeunes femmes dans des robes en mousseline très vaporeuses avec des grosses baskets. Ces contrastes-là, ou associer du masculin et du féminin, porter une veste d'homme ou une blouse d'homme ou un pull d'homme en cachemire avec un jean avec une jupe. Eh bien, ces notions-là, elle abordait déjà les choses et l'élégance à travers ces contrastes-là, que je crois on est toutes beaucoup à utiliser aujourd'hui sans même y penser, ça paraît évident.
Alors avec Véronique Belloir, on s'est aussi posé la question de ce que penserait la créatrice si elle se baladait dans les rues de Paris aujourd'hui.
Oui, du crop top par exemple, du chandail bedaine comme on dit au Québec.
Du chandail bedaine, exactement. Et en retrouvant une interview de 1969, donc 2 ans avant sa mort, elle avait 86 ans, on a quelques éléments de réponse et ça s'annonce pas terrible.
Mais très bien admettre qu'à la campagne on porte des pantalons, c'est tout ce qu'il y a de plus utile, on n'a pas froid, on peut se mouiller un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord c'est moi qui les ai inventés et ça fait presque 20 ans. Je les avais inventés par pudeur, parce que je trouvais que de se promener en costume de bain sur une chose, c'est ça qui va se montrer tout nu. Eh bien quand je trouve que quand on a pris son bain de mer, même si on veut rester sur la plage, c'est pas difficile d'enfiler un pantalon. Une jupe c'est pas joli, un peignoir de bain c'est affreux. Par conséquent, un pantalon, c'est très bien. Mais entre ça et en faire une mode, et qu'il y ait 70% de dames en pantalon le soir dans un dîner, c'est assez triste.
Vous n'avez pas l'impression que ça leur va bien à toutes ?
Non, non, non. Ça va aux gens très jeunes. Ça ne va pas partir d'un certain âge, on a l'impression qu'on s'est mis ça pour se rajeunir. Je ne connais rien de plus vieillissant que d'essayer de se rajeunir, voyez-vous. C'est la chose la plus bête qui puisse arriver à une femme. Et de se dire, si j'ai un pantalon, j'aurai l'air plus jeune que si j'ai une jupe. Enfin, c'est une sottise noire.
Voilà, donc l'émancipation des femmes, très bien, tant qu'elles restent en jupe. Quid des crop tops, donc, voilà. Et des jeans déchirés. Je ne suis pas sûre que Gabrielle Chanel aurait trouvé ces tenues très républicaines, mais qui sait.
Manifeste de mode, Gabrielle Chanel, une exposition à découvrir jusqu'au 14 mars au Palais Galliera. C'était Mademoiselle Beaucourt, qui, comme Gabrielle, n'est pas toujours un ange. Mise en scène théâtrale et mise en abîme, jeux de rôle et jeux sur le genre. Avec vous, Elisabeth, on va donc parler de Cindy Sherman. Ça se passe à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, qui présente la première rétrospective de cette artiste américaine culte. Première rétrospective, donc, depuis 14 ans.
Oui, autant vous dire que c'est un événement, une exposition exceptionnelle. Cindy Sherman, vous le disiez, hein, Jean-François, c'est l'une des artistes avec Man Ray ou Duchamp qui a fait entrer la photo dans le monde de l'art. Mais à la différence de ces deux géants, son seul sujet, son seul modèle depuis ses débuts dans les années 70, c'est elle-même, alors qu'elle s'habille et se maquille en jeune fille romantique ou en poule de luxe, en rombière texane ou en bourgeoise de Boston, en garçonne ou en desperate housewife, voire même en garçon. Ah oui. À la Fondation Louis Vuitton, on peut découvrir 200 œuvres de 75 à aujourd'hui. Et donc j'ai demandé à Marie-Laure Bernadac, qui est l'une des deux commissaires de l'expo, à quel moment Cindy Sherman est devenue culte.
Ce qui l'a rendu très très célèbre, c'est la fameuse série qu'on appelle les film styles, qui sont ces photos de tournage où elle se déguise en plusieurs personnages fictifs de cinéma. Et ça, ça a eu énormément de succès. Parce que c'est évidemment une interrogation sur le cinéma, sur le vrai et le faux. Il se trouve que dans la fin des années 70, début des années 80, beaucoup d'artistes, femmes, féministes, s'étaient déguisées. Et donc là, ce qui est formidable avec Cindy Sherman, c'est qu'elle déjoue un peu tous les clichés, tous les archétypes. Et ça, cette série a eu énormément de succès.
Alors, film styles, en anglais, Jean-François, ça veut dire photographie de plateau. Mm-hmm. Et donc, effectivement, dans cette série en noir et blanc, petit format, hein, c'est 19 cm sur 24, elle imite, en fait, elle fait toute une panoplie d'héroïnes qui pourraient appartenir à l'univers de Cukor ou de Hitchcock. Donc, de la célibataire esselée qui marche dans la ville à la femme fatale, en passant par l'étudiante parfaite, hein, l'héroïne hitchcockienne type en visite à la bibliothèque.
Alors, on le disait, Elisabeth, c'est une rétrospective. Comment l'exposition a-t-elle été conçue?
Très simplement, en fait, par ordre chronologique. Alors, vous voyez l'espace immense de la Fondation Vuitton, donc qui a permis aux scénographes d'envisager une sorte de mise en scène qui se déploie comme un éventail, avec des toutes petites salles colorées, des grands miroirs dans lesquels se reflètent ces immenses photos, avec de temps en temps un visiteur qu'on voit se dédoubler devant les photos. Et Sherman a totalement validé ce principe, ce qui paraît assez logique, puisqu'elle est la reine des masques.
Ce qu'elle dit souvent, c'est qu'en fait, enfant déjà, elle se déguisait, mais qu'elle se déguisait ou en vieille dame ou en monstre, surtout pas en ballerine ou en princesse. Donc il y avait déjà ce goût de l'horreur, de côté fric, un peu gore et trash qu'elle a, qu'on voit dans certaines images. Et ce qui est extraordinaire aussi, qui fait sa singularité par rapport à d'autres travaux de ce type, c'est qu'elle fait tout elle-même. C'est-à-dire qu'elle choisit le maquillage, les costumes, les perruques, elle se photographie toute seule dans son studio et après, elle travaille la photo, elle travaille des tirages.
Voilà, elle fait tout, comme l'explique Marie-Laure Bernadac. Et l'expo est formidable parce qu'on voit une artiste grandir, mûrir, devenir obsessionnelle sur un sujet, en abandonner un autre, comment sa vie en fait informe son œuvre. Par exemple, en 89, elle fait un séjour à Rome et probablement elle est émerveillée par ce qu'elle voit dans les musées, les églises, et donc elle livre 35 portraits qui réinterprètent la peinture occidentale. Alors voilà, elle cite le Caravage, elle cite Raphaël, elle cite Jean Fouquet, et bien sûr, c'est son principe de son travail, elle se met en scène, elle se photographie, donc elle joue la Fornarina de Raphaël, elle joue le Bacchus du Caravage. C'est vraiment très très étonnant. Au début des années 2000, elle se met en scène en clown. Au début des années 2000, toujours, dans les Hampton Times, elle livre sa vision de la bourgeoisie américaine vieillissante et richissime. C'est aussi très impressionnant. Les Hamptons, Jean-François, à titre indicatif, c'est cette bande de terre pas très loin de Manhattan où les riches New-Yorkais passent l'été loin du bitume brûlant de la 5e avenue. Voilà. Donc, d'où ma question à Marie-Laure Bernadac. Est-ce qu'il y a une dimension qui est typiquement américaine dans le travail de Cindy Sherman?
Oui, il me semble. Elle a vraiment une parodie de la société américaine sous tous ses aspects. Bon, il y a le cinéma, il y a la pop culture. Alors le clown, c'est évidemment une figure obligée pour elle, parce que c'est la figure de l'artiste, c'est la figure du saltimbanque. Et donc là aussi, il y a toutes les formes de clown, le clown triste, le clown terrifiant, le clown femme, une toute petite femme entourée de plein d'hommes. Donc même sur un sujet aussi rabattu que le clown, elle arrive à donner une autre dimension personnelle qui est vraiment la marque de Cindy Sherman.
Voilà, et le plus incroyable dans cette exposition, où je le répète, on ne voit que Cindy Sherman, c'est que plus on la voit, plus elle devient mystérieuse et secrète. Elle qui a toujours dit, la seule chose que je sais depuis toujours, c'est que l'appareil photo ment. C'est QFD.
C'est QFD, comme vous dites. Merci beaucoup, Elisabeth. Cindy Sherman, c'est donc à la Fondation Louis Vuitton à Paris, dans le bois de Boulogne, jusqu'au 3 janvier 2021. Ecstasy, This Is Shit, c'est donc à vous, Alain, une formation donc dont vous avez reçu deux membres, Loïc et Gilles, respectivement le guitariste et le batteur.
De ce trio français, comme son nom ne l'indique pas, et qui a opté pour une formule pas mal usitée dans les années 70, celle de d'une seule plage, à l'instar de Pink Floyd par exemple. Pour quelle raison ce choix?
Ça part du live, c'est-à-dire comme un DJ set, mais fait par un groupe de rock. On voulait vraiment amener les gens du début à la fin, avec des morceaux qui s'accalment, une accalmie sur certains morceaux. Mais sinon, ce serait tout faire d'un coup et amener les gens avec nous sur tout le live, quoi.
Une seule piste, mais faite de compositions différentes, attachées donc les unes aux autres, telles que hemp, cette variété de chanvre utilisée comme drogue, ou dans un but médical. Quel effet la musique de This Is Shit peut-elle avoir sur leur audience?
Qui se laisse aller de bout en bout, qui se laisse porter, tout simplement.
Il y a un peu une idée de transe dans tout ça. C'est un peu l'idée. On parlait de DJ set. C'est vrai que idéalement, le concert, ça pourrait être un peu. C'est après, en admettant que les gens se laissent totalement aller dès le départ ou connaissent déjà notre musique et y adhèrent, il y a un côté boîte de nuit, danse, ça s'enchaîne sans arrêt. C'est un peu cette idée-là et pas juste un morceau, on s'arrête, merci, etc. Voilà.
Voilà une sorte de trance collective qui a un début et une fin et ça ne s'arrête pas. Voilà.
This is shit, hump sur RFI.
En cette étrange période de confinement que nous venons de vivre, Jean-François, nos trois musiciens ont décidé de ne pas décaler leur sortie digitale afin de proposer quelques minutes de divertissement plutôt précieuses à ce moment-là. Quelle influence cette phase a-t-elle pu avoir sur vos compositions, Gilles et Loïc ?
Bah, moi, personnellement, j'étais pas trop créatif pendant cette période, mais je pense que ouais, c'est encore un petit peu tôt pour savoir comment ça va agir sur nous. Et puis, c'est sûr qu'il y aura une incidence, mais on ne sait pas comment ni quoi.
Oui, je suis assez d'accord avec Loïc, surtout qu'on n'en est pas sorti de cette période. Donc, c'est un petit peu tôt pour répondre. Mais bon, on chôme pas pendant ce temps-là. Hein. On s'occupe du reste. Justement, on profite toute la com. Là, on sort des clips. Enfin, on fait des interviews. C'est ce qui permet de continuer à exister, mais au niveau de la création, on rentre dedans en ce moment, mais rien n'est encore trop clair et fait.
Slash, 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 this is shit. Et que disent leurs paroles, alors?
Bah, quand il y a du texte, Jean-François, ce sont des découpages de phrases qui n'ont pas vraiment de sens. Quelle était leur intention avec cette méthode?
C'est de humaniser la musique sans avoir vraiment du chant qui vient s'accoler dessus.
Oui, tu veux dire que c'est le côté électro. Après, je trouve que dans les découpages, dans ce qu'on prend, les samples qu'on met, il y a un côté rythmique intéressant. C'est plus pour le côté musical éventuellement. Comment ça s'imbrique dans notre musique plutôt que les mots en eux-mêmes, ce qu'ils disent, enfin.
Les titres des morceaux sont peu communs, comme Paraldéhyde, liquide bouillant obtenu par polymérisation de l'éthanol.
J'aime bien l'idée d'avoir un titre qui n'est pas très utilisé et du coup ouais c'est aussi ça permet aux gens de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mot, d'où ça sort, et puis après je trouve il y a un petit côté voilà, le mot est chantant un peu, donc voilà.
Voilà, un produit utilisé aussi bien dans le domaine industriel que musical.
Alors à ce sujet, quel pourrait être le remède pour que l'industrie musicale se porte mieux aujourd'hui pour eux? Eux qui confient être musiciens, c'est aussi un combat permanent contre la frustration créative.
Il y a deux façons de répondre à cette question. La façon la plus terre-à-terre, c'est plus de concerts. Plus de, malheureusement, là, on peut pas du tout. Alors, ça, c'est bien le grand problème de cette époque. Et puis après, d'enregistrer plus de la compo, de ce qu'on peut apporter. Toujours aller hors des sentiers battus, toujours essayer de lier, réussir à capter un peu l'attention du plus grand, plus de monde possible. Donc ça passe par quelque chose quand même de assez facile d'accès au niveau du son, au niveau des codes, mais en même temps essayer quand même de pas répéter des choses déjà faites.
Paraldéhyde, donc titre de l'album de This Is Shit, sorti chez Upton Park en digital CD et vinyle chez l'autre distribution Idol. Merci beaucoup Alain, merci également à Elisabeth, Amélie et Marjorie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi, bien sûr, avec la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, le cinéaste et producteur Abderrahman Sissako pour le spectacle Le vol du Boli qu'il présente avec le musicien anglais Damon Albarn au théâtre du Châtelet à Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.